De retour à l'émission Au gré du temps. Dites-moi, Monsieur Grandmaison, le défi qui se pose à tous les organistes, quand on constate, on en a parlé précédemment, la fermeture de nombreuses églises, la baisse de cette pratique religieuse en Occident, parce que ce n'est pas toujours le cas partout dans le monde. Si on regarde ce qui se passe en Afrique et en Amérique du Sud, c'est tout à fait l'inverse. Mm-hmm. Mais chez nous, il y a cette désaffection. Mm. Est-ce que cela amène aussi un moins grand intérêt à l'égard de l'instrument?
C'est sûr que les églises qui ferment les unes après les autres, forcément, les orgues restent muets. Les organistes qui sont en place souvent perdent leur emploi ou essayent de se trouver une place ailleurs. Je vous dirais qu'il y a des organistes qui sont intéressés à se trouver des emplois dans les églises, mais il y en a qui ça ne l'intéresse pas du tout. Bon. J'ai pas vraiment de réponse à savoir qu'est-ce qui va advenir. Je pense que les pauvres musiciens d'église sont un peu liés à un inconnu. Et combien de temps ça va durer? C'est une crise religieuse profonde. Je ne sais pas. Une chose est certaine, Pierre Grandmaison est certainement très privilégié de pouvoir jouer à Notre-Dame, parce qu'on sait que la basilique Notre-Dame ne peut pas fermer, c'est un non-sens. Et je remercie le bon Dieu d'être là. Si je n'avais pas été organiste à Notre-Dame, qu'est-ce que j'aurais fait? Je me serais peut-être retrouvé comme pianiste, comme chef d'orchestre. J'aurais peut-être fait autre chose aussi.
Mais il nous semble qu'il y a eu une époque qui a donné de grands organismes. On pense par exemple à Bernard Lagacé, Raymond Develuy, vous-même, Madame Todorovski dont on parlait précédemment. Oui. Est-ce que vous croyez que dans 10, 15 ou 20 ans, il y aura encore de jeunes qui deviendront de grands organistes?
Oui, moi je pense que oui, parce que l'orgue, ce n'est pas certainement pas le public de l'opéra, ce n'est peut-être pas le public de l'orchestre symphonique ou du piano, mais l'orgue aura toujours des adeptes. Et il y aura donc des exécutants et il y aura des auditeurs. Parce que l'orgue a une espèce de fascination profonde sur les individus. Moi, des fois, je reçois beaucoup de jeunes à Notre-Dame et évidemment, ils ne connaissent pas beaucoup le répertoire d'orgue. Mais je vais leur jouer la toccata et fugue en ré mineur et tout de suite, on entend « papapam ». Alors, tout de suite, les gens sont pétrifiés. Je sors tout l'orgue et puis là, ils savent pas quoi dire, ils sont pantois. Et ils sortent de la basilique de Notre-Dame puis ils ont un choc. Hein? Alors, donc, faut choquer dans le bon sens du terme. Faut heurter dans le bon sens du terme. Faut leur faire frapper un mur dans le bon sens du terme.
Mais toujours faut-il entrer dans ces lieux pour pouvoir entendre les orgues.
Absolument.
Combien de jeunes n'ont jamais été mis en contact avec le son même de l'orgue?
Assez curieusement, je le vois à la basilique Notre-Dame, il y a des jeunes qui entrent. Il y a des jeunes qui entrent et qui viennent prier ou bien qui viennent s'asseoir, qui viennent contempler. Et je sens qu'il y a quelque chose qui les habite. Quoi? Ça les regarde. Mais il y en a des jeunes. Il y en a des jeunes et c'est peut-être pas une majorité, mais il y en a. Et je dis toujours, cette jeunesse-là, c'est peut-être l'Église de demain. Hein? Et moi, je médite toujours cette parole du Christ qui dit « Tu es pierre et sur cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Ça veut dire qu'elle est éternelle. On peut fermer des églises de pierre, mais l'Église du cœur, l'Église du peuple de Dieu est éternelle.
Alors, on va vous entendre cette fois.
Pourquoi pas?
Dans un extrait d'une œuvre de César Franck, cet extrait des trois pièces pour orgue de César Franck, c'est le Cantabile.
Le Cantabile, oui, qui est une œuvre magnifique.
Et que vous avez enregistré?
J'ai enregistré l'intégrale de l'œuvre d'orgue de César Franck à Notre-Dame, et ça fait déjà 3 ans de ça. Et donc, le Cantabile fait partie des trois pièces de 1878 qui comportent Fantaisie en la majeure, Cantabile et pièce héroïque.
quand on s'entend comme cela, oui. Qu'est-ce qu'on ressent?
Oh mon Dieu, c'est... moi, je vais vous dire, quand j'enregistre les disques, bon, je fais tellement de séances d'écoute après pour voir quelle est la bonne prise, etc. Et une fois que c'est terminé, que le disque est sur le marché, je ne m'écoute plus. Et alors, à un moment donné, des fois, je me réécoute, puis je me dis, ah, regardons ça, j'ai fait ça. Ah, j'aurais pu faire telle autre chose. On reste toujours un peu critique.
Mais souvent, on est plus exigeant à l'égard de soi-même.
Moi, je suis absolument infernal pour moi-même.
Pierre Grandmaison qui est avec nous. J'allais vous poser une question, parce que vous dites que vous êtes très critique, comme le sont à peu près tous les interprètes.
Absolument,
d'ailleurs.
Oui.
Mais est-ce que vous êtes capable de nous expliquer le mystère de cet instrument qui s'appelle l'orgue et qui fait en sorte que dès que résonne la musique d'un orgue, on se sent comme tout de suite, quelles que soient ses croyances, on se sent tout de suite comme appelé à l'intérieur, à une vie plus intense au plan de la réflexion?
Je suis tenté de vous dire que d'abord, l'orgue a une sonorité très enveloppante. C'est un instrument qui couvre tout un vaisseau, hein, toute une église. Et quand un orgue est bien harmonisé et qu'il convient très bien au vaisseau dans lequel il résonne, obligatoirement, on est nimbé de son, comme je vous disais. Il y a une espèce d'osmose entre le buffet de l'orgue, par exemple, qui parle, et l'architecture de l'église, et le son de l'orgue qui a un caractère très, très mystique, et qui vient comme qui vient communier à l'architecture. Hein? Il vient faire une unité profonde avec l'architecture. On sent toujours cette espèce de grandeur instrumentale. On dit souvent que l'orgue est la voix de Dieu.
Ouais. La sonorité, elle est particulière.
Absolument, absolument. Qu'il joue doux ou qu'il joue fort ou moyennement fort, on a comme une espèce de sensation de grandeur. Hein?
Et c'est à la fois de douceur.
Oui, mais la grandeur au sens de la profondeur.
Bien sûr.
C'est on s'assoit. On se dit, ah bon, ben j'écoute l'orgue, je peux pas parler.
Parlez-moi de l'instrument sur lequel vous jouez, celui de la Basilique Notre-Dame.
L'orgue de la Basilique Notre-Dame a été inauguré en 1891. C'est un orgue de 4 claviers, pédaliers, et actuellement, il fait 92 jeux réels et il comporte 7000 tuyaux. Les plus grands tuyaux ont 32 pieds de haut et le plus petit a un quart de pouce.
Pour les néophytes, est-ce qu'on peut parler d'un grand orgue? Absolument.
Je dirais que c'est probablement l'instrument le plus prestigieux d'Amérique du Nord au moment où on se parle.
À ce point,
je n'ai pas peur. Je sais qu'il y a des orgues beaucoup plus importants aux États-Unis au niveau nombre de jeux. Il y a des orgues de 300 jeux. Mais le premier grand orgue de Notre-Dame, c'est-à-dire de l'Amérique du Nord, c'est celui de Notre-Dame de Montréal.
Qu'est-ce qui fait cette qualité?
C'est que cet orgue-là, qui a été fait par Casavant, est le premier grand instrument de Casavant. Et lorsque les frères Casavant ont signé le contrat avec la fabrique Notre-Dame, qui est administrée par les Sulpiciens, un des frères Casavant, Claver, est allé rencontrer plusieurs facteurs d'orgue en Europe. Et son choix s'est porté sur Cavaillé-Coll, qui a été probablement le plus grand facteur d'orgue au 19e siècle. Et il a fait les restaurations des orgues de Saint-Sulpice à Paris en 1862 et Notre-Dame de Paris en 1868. Il a lui-même construit des orgues très importants comme la Madeleine, l'orgue de Franck à Sainte-Lotilde en 1856 et tant d'autres, Saint-Ouen de Rouen, qui datent à peu près de la même période que l'orgue de Notre-Dame de Montréal. On a des jeux de Cavaillé-Coll dans l'orgue.
On va tomber dans un autre registre. Oui. Vous avez choisi une pièce de Maurice Ravel,
oui.
Les Jeux d'eau.
Oui.
Pourquoi cette pièce?
Parce que moi, j'ai toujours... D'abord, Maurice Ravel est probablement le plus grand musicien du 20e siècle. Bon, Maurice Duruflé s'inscrit dans cette démarche-là aussi. Et Ravel était un homme d'une... Il y avait une espèce de fascination qu'il exerce dans sa composition. Et Vlado Perlmutter, qui est au piano, était un de ses élèves au piano. Il a travaillé toute son œuvre de piano. Et donc, ça reste un enregistrement de référence. Pour moi, les Jeux d'eau, c'est la limpidité, c'est le rêve, c'est Maurice Ravel. C'est une pièce très impressionniste.
Et Vlado Perlmutter, un grand pianiste?
Un grand pianiste qui est mort tout récemment. Il était au-dessus de 90 ans. Et il a donné de nombreux de nombreux masterclass sur l'œuvre de piano de Ravel. Et je crois que c'est probablement le dernier grand témoin de ce compositeur.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Grandmaison, l'organiste titulaire des orgues de la Basilique Notre-Dame de Montréal depuis maintenant plus de
36 ans maintenant, oui.
Et pour peut-être encore un autre 36 ans, c'est
j'aimerais bien, si le bon Dieu veut, j'aimerais bien voir mes 50 ans.
Vous parliez en début d'émission de l'importance de cette énergie physique lorsqu'on joue de l'orgue.
Oui.
Est-ce que plus on évolue auprès d'un instrument semblable, parce qu'on se perfectionne constamment, est-ce que le jeu physique devient moins important et cède la place à ce que j'oserais appeler l'inspiration qui provient de l'intérieur et qui fait en sorte qu'on fait un mariage parfait avec l'instrument?
Moi, je pense que d'abord, pour être un bon musicien, il faut avoir une bonne technique. Une fois que la technique est acquise, on n'y pense plus, parce que la technique est au service de l'émotion. On ne doit pas jouer pour la technique. La technique n'est pas une finalité. La virtuosité n'est pas une finalité.
Mais ce sont des éléments essentiels.
Ce sont des éléments essentiels sans quoi la musique n'existe pas. Si vous jouez Liszt, par exemple, faut pas donner l'impression que c'est difficile. Faut aller au-delà de ça. C'est ce qui s'appelle avoir la transcendance de la technique. Une fois que la technique est acquise, on fait de la musique, on chante, on se libère, on va dans le rêve, hein? Et on ne pense plus parce que les réflexes sont là et c'est tout.
Hein? Votre projet, si vous aviez une quête, quelle serait-elle?
Au plan musical? Ben, j'aime beaucoup composer. J'ai composé un oratorio il y a 4 ans pour l'oratoire Saint-Joseph, qui était une commande.
La messe Notre-Dame de Montréal aussi.
La messe Notre-Dame de Montréal. J'ai 2 projets dans la tête actuellement pour chœur, orgue et grand orchestre. Je suis en train d'élaborer un projet, là, c'est une symphonie, à caractère d'oratorio.
Vous l'avez fait pour la visite, je pense, pour le 10e anniversaire d'intronisation de Jean-Paul II.
J'ai fait une symphonie pour chœur, orgue et orchestre à qui j'ai pu le remettre directement à Jean-Paul II lors d'une audience et j'étais très impressionné.
Est-ce que la direction d'orchestre serait quelque chose qui pourrait être envisageable par Pierre Grandmaison?
Je dois diriger avec un orchestre français et un chœur belge. Le Requiem de
Mozart.
C'est
vraiment autre chose.
C'est autre chose, mais la direction d'orchestre m'a toujours passionné. C'est pas facile d'en faire ici parce que, bon, il faut être dans le milieu, il faut... je ne veux pas dire trop autre chose désagréable, mais ce n'est pas facile de faire de la direction d'orchestre.
C'est très compétitif,
Mais il y a aussi des chapelles, il y a des... Bon, enfin, ça sert à rien de rentrer dans cette discussion-là. Mais vouloir faire de la direction d'orchestre, il faut savoir mettre le pied dans la bonne porte et la laisser entrouverte.
Et en terminant, avant de présenter la dernière œuvre, est-ce qu'on peut dire que Pierre Grandmaison est un homme heureux?
Oui, je pense que oui, parce que je fais ce que j'aime, d'une part, et je le fais dans un caractère de foi et dans un caractère profondément social. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la société. J'aime rencontrer les gens. Je ne m'enferme pas dans ma tour d'ivoire, si vous voulez. Et c'est très important, ça.
Bien, Monsieur Grandmaison, on est très heureux de vous avoir reçu, mais avant de conclure, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur la pièce qui nous servira finalement de conclusion à cette émission. C'est encore du César Franck.
Le final.
Le final.
Le final en si bémol.
Extrait des 6 pièces.
Exactement. C'est une pièce, c'est pas la plus grande pièce de César Franck, mais c'est une pièce qui exprime une joie solide, une joie profonde. Franck était un homme profondément croyant et il était très introspectif. Mais là, il a laissé déborder une espèce d'énergie intérieure profonde. En plein de joie. Et c'est finalement, et comme c'est écrit pour l'Église, c'est finalement quelque chose qui dit le triomphe de l'Église.
Je serais presque porté à vous dire, et Jésus, que ma joie demeure.
Pourquoi pas? Merci beaucoup.
Écoutez, M. Grandmaison, ce fut un honneur, un privilège que de vous accueillir à nouveau au micro de Radio Ville-Marie que vous avez bien connu.
Absolument, je suis très heureux de retrouver tous les techniciens ici, tous les gens de Radio Ville-Marie.
Et pendant que nous entendons déjà ces notes que vous... Les doigts que vous posez sur cet orgue de la Basilique Notre-Dame, nous allons vous souhaiter plein de succès dans vos nouveaux projets.
Merci beaucoup.
Et au plaisir de vous revoir. C'était l'émission Au gré du temps. Armand Dubois au micro, l'émission qui a été réalisée sous la supervision de Joe Pacheco. Revenez-nous la semaine prochaine et nous terminons sur cet extrait de César Franck, le final de Extrait des 6 pièces. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.